Dans la première séance, nous avions en somme donné le cadre dans lequel on peut aborder la pensée, la philosophie nietzschéenne, en particulier ce livre par de la bien et mal qui retient notre attention cette année. Je vais rappeler quelques éléments, vous en aurez sans doute retenu d'autres, pour nous remettre dans le bain et puis nous pourrons ouvrir quelques questions. Sur des points que je n'ai abordés que trop vite ou qui vous posent question, et nous poursuivrons notre lecture. Voilà, j'avais insisté sur la vie même de Nietzsche, non pas pour le plaisir de donner de la documentation ou pour faire un roman personnel, mais parce qu'effectivement, il y a une très grande adéquation entre la vie tourmentée, solitaire, malade, maladive de Nietzsche et sa pensée. On pourrait même dire, et il le dit lui-même en particulier dans l'avant-propos du Gai Savoir, que c'est la souffrance ou la maladie qui a été le creuset de sa philosophie. Il va même jusqu'à dire dans ce très beau texte que c'est le cas de tout philosophe, mais que la plupart des philosophes n'osent pas dire qu'ils ont été des malades, alors que lui, Nietzsche, ose avancer sa maladie comme le lieu même, le creuset de sa pensée. Alors, la vie de Nietzsche est intéressante à regarder, je dirais sous ses aspects au fond assez tristes et médiocres par certains côtés, puisque c'est d'une part la solitude qui va le caractériser tout au long de sa vie. Il n'a jamais fondé de famille, il a été un errant, en un sens, entre la Suisse, il se maria, et puis la Riviera italienne ou française, et la maladie l'a poursuivi tout au long, et va même gagner sur lui, puisque les 10 dernières années de sa vie seront des années de dérangement mental, disons de folie. Bon, j'avais insisté également sur la double influence décisive pour l'ébranlement de sa propre pensée qui a eu lieu au moment de ses études à Bonn, à la fois la découverte de Schopenhauer qui va le précipiter dans un pessimisme et même, dira-t-il, un nihilisme dont il aura beaucoup de peine à se dégager, peut-être n'y arrivera-t-il pas jamais, et d'autre part l'ébranlement de sa position chrétienne, de sa foi chrétienne, notamment au contact de David Friedrich Strauss, disons en gros de la théologie libérale protestante de cette époque, et notamment l'idée de démythisation, démythologisation. J'avais noté encore que certainement il faut compter parmi les expériences majeures de son parcours la fameuse révélation Offenbarung de Sils Maria en août 1881, où Nietzsche découvre, enfin, à l'intuition qui lui arrive sans qu'il l'ait apparemment cherché, l'intuition de l'infinité du monde, de sa grandeur qui dépasse tout ce qu'on peut en dire, et donc l'entrée dans la philosophie du oui et de l'affirmation. C'est un élément évidemment capital, puisque on risque toujours de laisser la place au côté très noir et négatif et critique de la pensée nietzschéenne, en oubliant que c'est l'affirmation qui est première. Selon un texte célèbre de Zarathoustra, seuls les affirmateurs sont les grands négateurs. Donc c'est seulement celui qui crée et qui affirme qui peut être capable de critiquer et de démolir. C'est pas celui qui passe son temps à la déconstruction qui est le véritable déconstructeur. Le déconstructeur, il se prend les pieds dans sa déconstruction et il ne crée rien. Le véritable déconstructeur, c'est celui qui construit. Bon, donc voilà un point sur lequel, évidemment, nous aurons à revenir. Ceci m'avait conduit aussi à insister sur le style très particulier de cette philosophie. Elle se présente, évidemment, selon des figures différentes, poésie, grand poème symphonique comme Zarathoustra, texte plus long sous forme presque de dissertation, avec la généalogie de la morale, mais surtout ce qui frappe le plus le lecteur, évidemment, ce sont des aphorismes, des sentences tout à fait brèves, et qu'il est effectivement très difficile d'interpréter. Un texte long, on peut voir en raisonnement, on peut voir à quoi il aboutit, on peut voir ses faiblesses. Un petit texte de deux lignes, évidemment, très difficile à interpréter. Alors, il ne s'agit pas là, me semble-t-il, d'une coquetterie, On pourrait dire d'un certain côté c'est une nécessité, puisque Nietzsche n'est pas un homme capable de rester des heures dans une bibliothèque et à écrire des tartines et des tartines, donc il écrit en marchant, notamment dans Sils Maria. Il ne peut écrire par conséquent que des choses relativement brèves, c'est une explication, je crois, assez fondée. Mais il y a une autre explication que nous avions déjà vue et que nous reverrons, c'est qu'il faut toujours se méfier plus ou moins du langage, qui est un piège. Et donc, il faut trouver une façon de parler qui ne soit pas un piège pour la pensée que l'on veut exprimer par là. Donc, il faut une élaboration labyrinthique, finalement, de la pensée. Et effectivement, Nietzsche se donne comme un tentateur, quelqu'un qui va tenter son lecteur en lui disant souvent des choses énormes ou scandaleuses ou folles. Mais c'est aussi une pensée de la tentative, c'est-à-dire de l'hypothèse à laquelle on se soumet provisoirement pour un temps, pour essayer de voir jusqu'où cela mène, mais qui n'est pas nécessairement la position finalement adoptée. Alors, cela suppose, de la part du lecteur que nous essayons d'être, une lecture patiente, une lecture de rumination. Il faut être une vache pour ruminer, c'est-à-dire ne jamais croire qu'on a avalé une fois pour toutes la potion. Donc, il faut revenir sur le texte, retour éternel de la même chose. Car, et c'est un thème fort que nous allons retrouver dans Par-delà le bien et le mal, on ne prend sur des textes comme sur la réalité que des perspectives. Perspectivismus, il n'y a pas de pensée de surplomb, de pensée englobante qui saisirait la totalité, mais seulement des aperçus. Alors, j'avais insisté dans cette une petite introduction la dernière fois sur des difficultés propres alors au texte du Par-delà bien et mal, mais qu'on pourrait étendre à d'autres textes. La première grande difficulté, Nietzsche nous le signale dans Ecce Homo, c'est que ce texte fait suite au Zarathoustra, qui présuppose par conséquent qu'on connaisse le Zarathoustra. Il a une œuvre plutôt de critique, c'est le diable regardant, que vous vous souvenez de ce passage, la beauté de la création, et qui va souligner les points noirs. Donc, ça supposerait que nous ayons bien en tête le Zarathoustra, qui n'est d'ailleurs pas si affirmatif que Nietzsche le dit. Mais il y a, relevant du langage proprement nietzschéen, d'autres difficultés. J'en avais énoncé deux, et on pourrait ajouter une troisième, ce que je vais faire tout à l'heure. La première difficulté, j'y ai fait allusion à l'instant, c'est la difficulté du texte écrit. Nous avions lu le paragraphe 296, ce très beau texte où Nietzsche dit « tant qu'elle n'était pas écrite, mes pensées volaient, se multipliaient, se complexifiaient, puis maintenant qu'elles sont sur le papier, elles sont un peu comme des papillons qu'on a cloués dans une vitrine, et ils sont morts. Il y a encore quelques beautés, mais d'une certaine façon, ils sont morts. » Et donc, l'élan créateur retombe à partir du moment où il est fixé dans une vérité que le texte est censé indiquer et détenir. Alors, la deuxième grande difficulté, c'est que Nietzsche se rend bien compte qu'il ne peut parler que sous des masques et qu'il doit présenter sa pensée dans la dissimulation. Toute pensée profonde veut le masque. Nous avions regardé le paragraphe 289 auquel je vous renvoie. Avec cette apparente contradiction, comment dire une chose fondamentale si on la masque? Et en même temps, comment éviter le langage? Voilà un grand problème. Est-ce que l'on peut dire des choses intimes, uniques et profondes sans passer par ce véhicule commun qu'est le langage, qui va aplatir les choses? Mais comment en même temps éviter tout à fait, si l'on, à moins de se taire, ce qui est toujours possible, comment éviter cela? Alors, on voit très bien la difficulté, je crois que Nietzsche la voit tout à fait bien, les pièges du langage, mais en même temps, on ne peut pas éviter le langage. Nous, on retrouve cette idée qu'il faut trouver un langage tel qu'il suggère, qu'il ne dévoile pas tout à fait, qu'il dissimule, qu'il oblige par conséquent le lecteur, je l'ai dit, à être intelligent, c'est-à-dire à interpréter. Alors, le risque, on le voit très bien, c'est que une philosophie masquée, et Nietzsche avance en effet masquée, est une philosophie que l'on peut ne pas comprendre, que l'on peut interpréter de travers, dont on peut dire qu'elle est totalement incohérente, puisqu'un masque en cache toujours un autre, et donc il est très difficile de dire, voilà, là nous avons le cœur, nous avons l'essentiel de la pensée nietzschéenne, c'est une pensée qui ne cesse de se dévorer un peu elle-même. Je faisais allusion l'autre jour, les grands thèmes comme l'éternel retour, la volonté de puissance, le surhomme, ne sont pas des thèmes récurrents. En dehors du Zarathoustra, l'idée du surhomme n'intervient pratiquement pas, ou elle intervient, nous allons le voir dans notre texte, mais c'est autre chose, sous la forme de l'homme noble, aristocrate, distingué, ce qui n'est pas tout à fait le surhomme. Donc on pourrait dire que c'est un philosophe qui dévore ses propres concepts au fur et à mesure qu'il les développe et qu'il les met en place. Et voilà. On pourrait dire d'ailleurs, je l'ai fait allusion le jour, c'est un peu comme un grand peintre qui n'est jamais satisfait du tableau qu'il a fait, et où il le détruit, où il en fait un autre. Cézanne devant la Sainte-Victoire. C'est jamais ce qu'il a voulu, et donc, heureusement, il ne déchire pas ses tableaux, ne les brûle pas, mais il en fait un autre. C'est toujours un peu la même chose. Et donc, quel est le vrai Cézanne? On peut toujours dire, le vrai Cézanne, nous ne l'avons pas encore, nous ne l'aurons jamais. Mais en même temps, le vrai Cézanne, ben, c'est celui des tableaux. Voilà. Bon, alors je vais à un troisième point, mais je vais m'arrêter pour laisser peut-être place à quelques questions. Pour revenir sur l'idée qu'en effet, la philosophie Nietzsche n'est pas une philosophie militante. Nietzsche ne veut parler au nom de personne. Il n'est pas le porte-parole de qui que ce soit. Pensons évidemment, je pensais l'autre jour en particulier évidemment à Marx, à toute une pensée socialiste où la philosophie pensait pour le prolétariat, et on trouve bien en effet encore de nos jours des philosophes qui croient penser au nom d'eux, au nom du peuple, au nom des pauvres, au nom des marginaux, etc. Alors ça, c'est tout à fait étranger, me semble-t-il, la pensée nietzschéenne. Il parle de lui, de sa souffrance, et paradoxalement, il pense que c'est en parlant de lui qu'il pourra rejoindre la singularité des autres. Non pas en cherchant à l'imiter, et je crois qu'en effet, on ne peut pas être un disciple de Nietzsche, on ne peut pas répéter le discours nietzschéen, il est non réitérable, mais chacun peut entendre une parole qui va le mobiliser lui-même à prendre en compte sa propre expérience et en faire ce qu'il doit ou ce qu'il peut en faire. Bon, je vais revenir avec deux textes sur ce point, mais je m'arrête là. Est-ce que vous auriez des questions donc sur la séance dernière, pas sur l'ensemble de la pensée nietzschéenne? Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais sur des points d'éclaircissement ou de complément. Ne soyez pas intimidés, oui. Oui. Bah, ils ne se connaissent pas, évidemment. Oui, oui, il y a de ça. Oui, je crois qu'il y a de ça. Oui. La singularité, c'est la philosophie de la singularité. Ça, certainement, oui. Bon, on ne peut pas faire des... Mais sinon, on retrouve en effet chez Kierkegaard l'affirmation de sa propre souffrance, sa propre solitude, sa difficulté de communication. Ça, c'est tout à fait Nietzsche, en effet, oui.
Son deuxième ennemi de Hegel,
aussi. Ah, absolument, oui. Bon, dans le cas de Nietzsche, c'est toujours difficile... Deleuze, que je vous ai donné en référence, en fait l'anti-hegélien par excellence. Je crois que Kierkegaard connaissait plus Hegel que Nietzsche, certainement. Nietzsche ne fait pas... Ben, pour la raison que j'ai dite l'autre jour, ça n'est pas un rat de bibliothèque, donc est-ce qu'il a lu La Grande Logique de Hegel? J'en suis pas absolument sûr. Il le connaît par les cours qu'il a reçus, il a lu des choses. Mais sa ligne de pensée, en effet, n'est pas celle de Hegel, disons au moins ça. Mais il passe pas son temps... Vous voyez des obus sur la dialectique hegélienne. Je crois que ça, c'est... Un universitaire à distance peut faire ça, vous diriez. Mais concrètement, je crois que c'est pas vrai.
J'ai une question qui est quasiment factuelle. Au cours dernier, vous avez dit que Nietzsche avait eu très peu de public de son temps, que en fait, personne ne connaissait. il a quand même été publié toute sa vie. Est-ce que ça, ça témoigne pas d'une notoriété, à moins qu'il ait publié à compte d'auteur, je
pense. Oui, non, il publiait, il était très peu lu. Il était très peu lu, il avait beaucoup de peine à publier ses livres et il payait en partie pour les publier. Non, il n'était vraiment pas connu. Hein. Fait toute petite publicité, mais le premier grand article français publié sur Nietzsche a été publié par le père de Grandmaison dans la revue Études en 1898, c'est-à-dire 2 ans avant la mort de Nietzsche. Mais Nietzsche était totalement inconnu. C'est Grandmaison qui, connaissant bien l'allemand, avait découvert Nietzsche et a dit « Mais attention, là, il y a un auteur quand même... Enfin, je ne me souviens plus exactement de l'article, mais enfin, il prévenait qu'il y avait là quelqu'un d'important et de dérangeant. » Mais il était tout à fait... Non, non, je crois qu'il était... C'est beaucoup, beaucoup plus tard. Et comme je disais tout à l'heure, je crois qu'on doit beaucoup à Heidegger pour sa réputation de grand philosophe et de métaphysicien. Mais ça, c'est l'après-guerre, c'est les années 50-60. Avant, on dit, oui, c'est un poète, un immoraliste, un littérateur, il écrit bien, il est scandaleux, on peut le comparer à Platon. Alors, Heidegger le fait, et alors le public grégaire des philosophes a suivi. Donc, on a découvert tout de même. Et Pierre Girard, alors, ce qui a joué, alors, surtout après, c'est évidemment l'effondrement un peu de la référence marxiste. C'est-à-dire que beaucoup, un certain nombre de philosophes, notamment en France, mais pas seulement en France, après 70, se sont retrouvés, je vais dire, à poil, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on était quand même dominé par le marxisme. Philosophie indépassable, horizon indépensable, indépassable de nos pensées, disait Sartre. Ben, on l'a quand même dépassé parce que l'horizon s'est effondré. Alors, on se retrouve, à qui va-t-on s'adresser ? Ben, Nietzsche paraissait, et paraît, je crois, toujours, plus que jamais, en recours. C'est quand même une grande pensée... une critique vigoureuse de la modernité, qui n'est pas la critique du capitalisme, évidemment, mais qui est la critique de l'individualisme moderne, nous allons le voir dans le texte. Et de ce point de vue-là, c'est une pensée qui nous oblige à penser, plus que la lecture du Capital, qui est intéressante, mais bon, la valeur travail, tout ce bazar, c'est bien, mais encore quelques individus farfelus qui... nous feront croire que c'est la pensée de demain, je ne suis pas absolument sûr. Est-ce que je réponds à ta question ? Non, je crois qu'il était vraiment très solitaire, hein, et désespérant d'être solitaire, d'ailleurs. Parce qu'il avait le sentiment en même temps qu'il apportait quelque chose d'unique, avec le côté un peu m'as-tu vu qui se trouve dans certains textes. Hein. Philosophe de l'avenir, etc. On me comprendra demain, enfin, il y a ce côté un peu paranoïaque. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, vous les gardez pour d'autres fois. Je voudrais donc, avant de passer à la lecture de la préface, lire encore 2 textes, je crois ne pas avoir lu la dernière fois, qui nous confirment cette idée de, à la fois de la souffrance comme lieu d'expérimentation philosophique, comme lieu de, on va dire, de la vérité philosophique, et l'idée du masque, de... La profondeur appelle la surface et le voile. Alors, nous pourrons regarder le paragraphe 270. J'espère que vous avez pu acheter des textes depuis sans trop de difficultés. 270. L'orgueil et le dégoût intellectuel de tout homme qui a souffert profondément. Bon, on voit bien de qui il s'agit. On peut presque classer les hommes d'après la profondeur que peut atteindre leur souffrance. De parenthèse, c'est un texte énorme. Vous voyez, qui nous donne aussi déjà une mise en garde contre des interprétations fallacieuses du surhomme. Le véritable homme aux yeux de Nietzsche n'est pas le malabar, le CRSSS, bodybuildé, etc. Dans la hiérarchie des hommes, le plus humain, c'est celui qui a le plus souffert. N'est-ce pas ? Si je comprends bien cette phrase. On peut presque, à nouveau, attention, ne faisons pas une hiérarchie, vous en avez bavé toute votre vie, donc vous êtes le héros. On pourrait presque classer les hommes d'après la profondeur que peut atteindre leur souffrance. Sa certitude frissonnante qui imprègne et colore son âme, d'en savoir davantage, souligné dans le texte, par sa souffrance, que les plus avisés et les plus sages, de connaître grâce à elle bien des mondes lointains et affreux, nous reviendrons là-dessus, et d'y avoir séjourné à demeure, non pas le petit mot de tête ou le mot de dent qui passe en 3 minutes, mais il a souffert des années à demeure, alors que vous n'en savez rien. Ce taciturne orgueil intellectuel du souffrant, cette fierté de l'élu de la connaissance, en allemand « aus erwählten der Erkenntnis », l'élu, le prédestiné de la connaissance. Alors attention, la souffrance, ce n'est pas simplement gémir, c'est connaître. La souffrance ouvre la voie à la connaissance. Et là encore, la philosophie nietzschéenne est une philosophie qui prétend à la connaissance. C'est la souffrance qui vous fait découvrir des choses cachées de l'expérience humaine que bien des sages et des intellectuels orgueilleux n'ont jamais vues. C'est ça que veut dire ce texte, me semble-t-il. Ce taciturne orgueil intellectuel du souffrant, cette fierté de l'élu de la connaissance, de l'initié, initiation, du sacrifié, ou peu s'en faut, l'oblige à revêtir toutes sortes de déguisements pour se protéger du contact des mains indiscrètes ou compatissantes, ou même de tous ceux qui ne sont pas ses égaux dans la souffrance. Donc on retrouve à la fois le thème de la souffrance et le thème du déguisement, du masque, du voile. Il faut cacher, on ne peut pas dire, je saute quelques lignes, il est des esprits libres et insolents, qui voudraient cacher et nier qu'ils sont des cœurs brisés, fiers et incurablement blessés. La bouffonnerie elle-même est quelquefois le masque d'un savoir douloureux et trop lucide. D'où il suit qu'on fera preuve de délicatesse en respectant le masque et en n'allant pas faire de la psychologie et placer sa curiosité au mauvais endroit. Je crois que c'est un bon conseil de lecteur, au lecteur, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ne cherchez pas à trop pénétrer le secret de l'homme que vous lisez. Gardez une distance, je crois que c'est un conseil qui vaut de manière très générale. Bon, on voit très bien qu'il y ait ce savoir douloureux, ce cœur brisé. Voilà, et je crois que c'est un point tout à fait capital, c'est que derrière les grands cris, derrière les coups de marteau, derrière les excès, il faut entendre, mais ça demande du temps, un cœur brisé. Et je crois que Nietzsche, en effet, est un homme brisé. Il a été brisé par son éducation piétiste, il a été brisé par l'expérience qu'il a faite, il a été brisé par la solitude. Mais c'est de cette cassure d'où il parle. Alors, autre texte, toujours dans le même livre, au paragraphe d'aphorisme 30. Il est inévitable, il est même juste, que nos plus hautes intuitions apparaissent comme des folies, sinon comme des crimes, lorsqu'elles parviennent indûment aux oreilles de ceux qui ne sont ni faits pour elles, ni prédestinés à les entendre. Voilà, toujours ce côté aristocratique. Il y a des vérités que tout le monde n'entendra pas, ne peut pas entendre, ne doit pas entendre, parce que s'il les entend, ça risque de le démolir ou risque de l'interpréter de travers. La pensée exotérique et la pensée ésotérique, que les philosophes distinguèrent toujours en Inde, en Grèce, en Perse, dans les pays musulmans, partout en un mot où l'on croyait à une hiérarchie et non à l'égalité des droits, ces deux pensées ne se séparent pas tant en ce sens que le philosophe exotérique reste dehors et voit, évolue, mesure, juge les choses de l'extérieur. Le point principal est que celui qui regarde les choses de bas en haut, tandis que le penseur ésotérique les considère de haut en bas. Pensée ésotérique, pensée exotérique. On voit clairement que Nietzsche se met du côté de la pensée ésotérique. La pensée du masque. On parle beaucoup en ce moment des alaouites. Alors je n'ai plus le mot arabe que je... Mais chez les alaouites, il y a cette idée que... Ça éclaire d'ailleurs un certain nombre de choses, qu'on peut parfaitement ne pas dire la vérité à l'étranger. On peut parfaitement le tromper. Double langage. D'abord parce qu'on est une minorité, et puis parce qu'il y a des choses que l'étranger ne peut pas comprendre. Donc on va lui dire ce qui lui plaît. C'est d'ailleurs un peu oriental. On va vous dire ce qui vous plaît. Et on pense que c'est... Voilà, ça vous fait plaisir, donc je vous le dis. Oui, ésotérisme, jamais vous ne pénétrez le fond de la pensée. Si j'y pense, je trouvais le mot arabe, si ça vous intéresse, vous le connaissez peut-être. Car c'est une pensée... C'est, comment dire, une référence reconnue et voulue. C'est pas une concession qui est faite, c'est une position admise. Pardon ? Peut-être, oui, je ne sais plus. Oui, oui, oui. On ne peut pas dire, il faut jouer ce jeu-là. Entre nous, on peut... D'ailleurs, c'est en fait qu'on connaît très mal les croyances des alaouites. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Bon, et c'est vrai dans un certain nombre de sectes musulmanes. Alors, en tout cas, on laisse ce point de côté, mais il est certain ici que Nietzsche se met du côté de l'ésotérisme. C'est une pensée ésotérique. Il est des signes de l'âme, des cimes de l'âme, d'où même la tragédie cesse d'être tragique. Et dans l'hypothèse où toute la souffrance du monde se rassemblerait en une seule masse, qui oserait affirmer que sa vue nous inclinerait nécessairement à la compassion et par là au redoublement de cette souffrance. Ce qui est nourriture ou rafraîchissement pour les individus supérieurs, donc l'individu ésotérique, celui qui saisit le fond des choses, devient presque un poison pour une humanité très différente et inférieure. Je saute quelques lignes. Il est des livres qui ont une valeur opposée pour l'âme et la santé, selon qu'ils agissent sur une âme basse et une énergie défaillante, ou au contraire sur une âme haute et une énergie vigoureuse. Nous trouvons cette opposition qui va jouer dans la distinction entre morale d'esclave et morale aristocratique, nous y reviendrons plus tard. Dans le premier cas, ce sont des livres dangereux, débilitants, dissolvants. Donc Nietzsche dit clairement ici qu'un certain nombre de ces livres sont redoutables pour un certain nombre de gens. Voilà, il ne faut pas y toucher. Si vous n'êtes pas capable d'y toucher, n'y touchez pas. Dans l'autre, d'exaltants appels qui provoquent les plus courageux dans le sens de leur courage. De leur courage. Il ne dit pas, il y a quelques-uns qui vont être mes disciples parce qu'ils auront pigé. Mais ceux qui auront entrevu de quoi il s'agit, ça les mobilisera pour assumer leur existence à eux, leur souffrance à eux. Les livres pour tout le monde sentent toujours mauvais. Une odeur de petites gens s'élève de leurs pages. Là où le peuple mange et boit, même là où il adore, l'air sent puanti. N'entrez pas dans les églises si vous voulez respirer un air pur. Bon, je crois qu'il y a aussi pas mal d'humour et de bouffonnerie dans ce discours, mais là où l'on est en commun... On respire un mauvais air. Bon, c'est l'air des cimes, mais qu'est-ce qui est capable de monter au sommet des montagnes de la belle Suisse? Quelques alpinistes exercés. La masse, elle est dans le fond de la vallée, elle est heureuse avec ça, bon, on la laisse dans le fond de la vallée. Mais quelques-uns peut-être peuvent aller en haut. Voilà, la vérité se perd lorsqu'elle devient commune. Ça, c'est un des grands thèmes de Nietzsche. Vous voyez d'ailleurs tout de suite pourquoi il n'est pas très démocrate. La vérité se banalise et elle se perd, elle s'affadit, elle devient... Alors on pourrait faire une critique à partir de ça des médias modernes. Paf, une vérité qui est jetée à la face de tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Et on voit très bien, les médias ont dit, vous avez 10 secondes, vous m'expliquez la Trinité. 10 secondes, vous expliquez la Trinité. Qu'est-ce que les gens vous disent? Une sottise. Je peux pas. Ah non, vous avez 10 secondes. Ou n'importe quoi d'autre, la PMA, tout, vous avez 3 minutes. Pas possible, vous dites des sottises. Voilà, je crois que c'est ça qu'il veut dire. Bon, alors, donc je crois que ça nous donne un climat qui nous met évidemment très loin de certaines autres philosophies. Nous allons y revenir finalement dans la préface. Alors, nous allons regarder cette préface qui est un texte postérieur. Si vous regardez bien, il est daté d'ailleurs de juin 85. Nietzsche a toujours le souci de situer ses textes. Il a été écrit à Sils Maria, donc il est postérieur, une préface postérieure au texte que nous lisons. postérieure donc à part de la bien et le mal, selon l'habitude que Nietzsche avait prise, qu'on trouve dans Ecce Homo, mais qu'on trouve dans les préfaces qu'il ajoutait à la plupart de ses livres, de revenir sur ces textes et de, je dirais pas de les recadrer, mais c'est toujours la même chose, il faut ruminer, on revient sur le texte antérieur, on recadre d'une certaine façon, on réajuste les choses, on redit ce qu'on aurait voulu dire et qu'on n'a pas dit, etc. Donc il y a une espèce de rabâchage au bon sens du terme, disons en termes nietzschéens, une rumination. Bon, alors en gros, nous allons lire quand même d'un peu près, ce texte, il s'en prend au fait de dogmatiser en philosophie. Il ne s'en prend pas à toute philosophie, mais à un style de philosophie. Un style de philosophie dont Nietzsche va nous dire qu'il relève d'une attitude primitive et qui finalement a perdu toute espèce d'intérêt pour nous. Je vais revenir là-dessus. Mais cependant, il ne faut pas négliger cette philosophie dogmatique ou ce dogmatisme en philosophie parce que ce dogmatisme est tout de même une promesse d'autre chose et donc lourd d'un avenir. Nous avons donc dans ce petit texte, la préface, une sorte de, mettons le mot entre guillemets, de philosophie de l'histoire. Nietzsche ne dira pas, comme les philosophes rationalistes, façon philosophie des Lumières, le passé philosophique ou théologique a été pétri d'erreurs, le fanatisme, la superstition, mais grâce à l'aurore de la raison qui se lève enfin sur l'humanité, nous allons pouvoir sortir de ce qui n'était que ténèbres pour aller à la grande lumière. Nietzsche va apparemment prendre une position semblable, mais il va nous dire « Ne négligeons pas ce passé qui, si lourd soit-il d'erreurs et de superstitions, était aussi porteur d'éléments décisifs pour l'avenir de la pensée et l'avenir de l'humanité. » Donc, je pense que vous voyez le cadrage différent. On n'est pas dans la perspective d'une philosophie de l'histoire qui conduirait l'humanité d'une période infantile à une période de maturité, et donc qui serait émancipée de l'enfance, grand discours rationaliste quand même du XVIIIe et même du XIXe siècle, on sort des ténèbres de l'enfance pour aller dans la lumière de l'âge adulte. Il s'agit de se réapproprier ce qui, dans ces âges anciens, reste encore valable pour nous, et surtout essentiel pour une pensée de l'avenir. Donc, le passé de la pensée, même s'il est erroné, n'est pas sans importance pour l'avenir. Et je crois qu'en effet, on tient là une idée très intéressante, à savoir que nous avons toujours besoin de scruter nos racines. C'est un mot que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais notre passé, non pas pour y revenir, comme vous allez voir, on ne reviendra jamais à Platon, mais parce que, à travers leurs erreurs, ils ont dit des choses vraies. Là encore, il s'agit d'interpréter ce qu'ils disent. Donc, nous ne pouvons plus nous reconnaître dans ce passé, nous ne pouvons plus y revenir, mais à nous, je dirais, de décider du sens de cet héritage. Qu'est-ce qu'on va faire du platonisme et du christianisme, puisque c'est les deux références qu'il cite. Donc, il ne s'agit pas de dire le christianisme est fini, c'est, on passe à autre chose. Le platonisme est mort, on passe à autre chose. Il s'agit de dire qu'est-ce qui était vital, essentiel dans le christianisme comme dans le platonisme, qui nous importe pour construire l'avenir. Donc, on voit tout de suite, n'est-ce pas, dans le cas du christianisme, que Nietzsche dit, allez, tout ça c'est fini, on passe à autre chose, tout ça c'est de la stupidité. Non, non, je dirais, il a été trop chrétien et il a trop bien vu l'apport du christianisme à l'Europe pour dire ça. On ne peut plus, il ne peut plus être chrétien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vider le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, il faut tenir compte, nous allons voir pourquoi, de cet héritage du passé. Donc, on pourrait dire encore qu'il est impossible d'ouvrir un avenir, et le sous-titre de ce livre, c'est quand même pour une philosophie, prélude à une philosophie de l'avenir. On ne peut pas ouvrir un avenir, ni pour l'humanité, ni pour la pensée, sans assumer notre passé. Et dans le texte, qui est évidemment un petit texte, les deux références essentielles, c'est le platonisme et c'est le christianisme, c'est-à-dire qu'on a affaire à deux traditions que tout semble opposer et que Nietzsche semble identifier, voilà, qui est aussi, je crois, très intéressant. Alors, on va regarder ce texte, je viens de donner simplement la ligne forte, me semble-t-il. Je commence à le lire. À supposer, pour nous rafraîchir l'esprit, à supposer que la vérité soit femme. Toujours le côté un peu provocateur, hein. Il ne faut jamais oublier ce côté bouffonnerie. Voilà, c'est du sérieux, puis pas très sérieux. Il faut rigoler un peu. Parce que les féministes, qui, s'il y en avait dans la salle, auraient jeté très vite des tomates pourries pour dire que c'est affreux, machiste. Attention. À supposer que la vérité soit femme, n'a-t-on pas lieu de soupçonner que tous les philosophes, pour autant qu'ils furent dogmatiques, n'entendaient pas grand-chose aux femmes? Et que l'effroyable sérieux, la gauche insistante avec lesquelles ils se sont jusqu'ici approchés de la vérité, ne furent que des efforts maladroits et mal appropriés pour conquérir justement les faveurs d'une femme. Il parle d'expérience, hein, entre nous, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de succès auprès des femmes. Certes, il ne s'est pas laissé séduire, elle ne s'est pas laissé séduire, la vérité femme. Et toute dogmatique, de quelque sorte soit-elle, se tient aujourd'hui dans une attitude chagrine et déconfite. Si, du moins, il subsiste encore une dogmatique, car il est des railleurs pour prétendre qu'elle est tombée, qu'elle gît au sol, plus encore que toute dogmatique est à la dernière extrémité. Parlons sérieusement. Donc, je dirais, nous avons un premier développement à supposer que. On rigole un peu. Maintenant, on vient au sérieux. Plus sérieusement, nous avons de bonnes raisons d'espérer qu'en philosophie, la dogmatisation, en dépit de ses attitudes solennelles et définitives, pourrait bien n'avoir été que noble enfantillage, maladresse de débutant. Peut-être le temps est-il très proche, peut-être. Où l'on s'avisera que la pierre angulaire des édifices sublimes et inconditionnés que les philosophes dogmatiques se sont plu à élever n'était au fond que superstition populaire venue d'un temps immémorial. Comme la superstition de l'âme, qui, devenue superstition du sujet et du moi, ne cesse aujourd'hui encore d'engendrer des méfaits. Quelques jeux de mots peut-être, donc il ne serait que quelques des jeux de mots, suggestion aberrante de la grammaire, ou encore généralisation téméraire de quelques faits limités, très personnels, d'un caractère très humain, trop humain. La philosophie dogmatique, il faut l'espérer, n'a été qu'une promesse pour des millénaires à venir, comme l'avait été à une époque encore plus reculée, l'astrologie, au service de laquelle on a peut-être dépensé plus de travail, d'argent, d'ingéniosité et de patience qu'au service jusqu'ici d'aucune science véritable. À elle et à ses prétentions supraterrestres, on doit le grand art monumental de l'Asie et de l'Égypte. Il semble que pour se graver avec leurs exigences éternelles dans le cœur de l'humanité, toutes les grandes choses doivent d'abord errer à travers le monde sous la forme de masques monstrueux et effrayants. L'un de ces masques fut la philosophie dogmatique, par exemple la doctrine de Vedanta en Asie, le platonisme en Europe. Alors, des rapprochements un peu audacieux, je dirais presque à la Malraux, mais ne soyons pas ingrats envers ces masques, même s'il nous faut assurément confesser que la pire, la plus invétérée, la plus dangereuse de toutes les erreurs fut jusqu'ici une erreur de dogmatique, l'invention platonicienne de l'esprit pur et du bien en soi. À partir de là commence, je crois, une troisième partie, mais à présent qu'on est venu à bout, donc maintenant qu'on est sorti de ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors je reviens quand même sur ce texte très, 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 très curieux. On part d'un présupposé, Vorausgesetzt, toujours l'idée d'hypothèse. Et si l'on posait l'idée que, donc une philosophie de l'hypothèse, de la légèreté, de la subtilité un peu aérienne, qui s'oppose à la lourdeur de la philosophie dogmatique. La philosophie dogmatique, elle sait, elle établit des monuments pérennes, les pyramides qui ne bougeront jamais, les temples de Maya qui ne bougeront jamais. L'hypothèse, elle Elle est aérienne, elle est subtile. Et j'ai signalé l'autre jour la place, justement, de l'hypothèse, des suggestions, des pensées hasardées, tentatrices, et si les choses étaient autrement qu'on ne les tient. Je voudrais ici avancer un thème que nous rencontrerons quelquefois, c'est la thèse de la danse. Nietzsche a souvent dit qu'il ne croirait qu'à un Dieu qui sait danser. Alors nous reviendrons sur ce thème, mais je le signale ici parce que ça a trait à notre hypothèse ici. Le danseur, il ne s'alourdit pas sur le sol. Il touche le sol et il rebondit. Et s'il tombe par terre, comme la philosophie dogmatique, n'est-ce pas, s'il affirme, ben il ne danse plus. Pour danser, il faut faire un pas, un autre, des entrechats, il faut être souple, il faut ne pas insister, il faut être capable d'aller de l'avant. On pourrait dire qu'on touche là la philosophie du danseur qui avance sur des cordes légères. Des cordes légères, beau thème que l'on voit dans le Gai Savoir. Des possibilités sur lesquelles on moderne. Alors si on marche sur des cordes légères, évidemment on ne peut pas marcher lourdement. Il faut marcher avec délicatesse et sous-entendu avec le risque de se fracasser par terre. Ce qui arrive au bouffon au début du Zarathoustra, si vous avez lu ce texte. Donc il s'agit de suggérer. Il s'agit de suggérer quoi? Une sorte de surimpression entre l'idée de vérité et l'idée de femme. Ça ne veut pas dire que les femmes seraient plus capables de vérité que les hommes. Et si vous voulez lire un texte antiféministe, vous pouvez regarder le paragraphe 232, qu'on peut quand même lire en s'amusant. 232, il est très long, mais je vais lire. C'est pas gentil pour les féministes avant la lettre. La femme veut s'émanciper. Et pour cela, elle entreprit d'éclairer les hommes sur la femme en soi. C'est là un des pires aspects de l'enlaidissement général de l'Europe. Car que ne révéleront pas tous ces grossiers efforts, cette mise à nu des femmes par elles-mêmes, au nom de l'esprit scientifique. Et quand on lit une certaine littérature féministe, on se dit, oui, elle ferait mieux d'être un peu plus pudique. La femme a tant de raisons de rester pudique. Il y a en elle tant de pédantisme, de superficialité, de prétention mesquine, de dérèglement mesquin et immodeste, observez son comportement avec les enfants, que la crainte de l'homme a jusqu'ici refoulé et contenu. Non, je crois que c'est une très belle idée. S'il y a du machisme, c'est que l'homme a peur de la femme. C'est ce que dit d'ailleurs Madame Françoise Héritier. Hein? Parce que la femme est très redoutable. D'abord, c'est elle qui engendre les enfants. C'est la thèse de Madame Héritier. Vous connaissez notre voisine. Elle explique, anthropologiquement, parlant, le machisme dominant dans la plupart des sociétés par la peur qu'a l'homme de la femme. Donc on l'a... Malheur à nous si ce que la femme a déterminément ennuyé vient à se manifester au grand jour. Bon, donc la femme, je laisse ça de côté, elle ne cherche pas la vérité. Je passe vers la fin du texte. Elle ne cherche pas la vérité. Que lui importe la vérité? Rien n'est d'emblée aussi étranger à la femme. Rien ne lui est aussi odieux, aussi contraire que la vérité. Son grand art est le mensonge. Sa grande affaire, l'apparence et la beauté. Avouons-le, ce que les hommes respectent et aiment dans la femme, c'est précisément cet art-là et cet instinct-là. Nous qui menons une vie pénible, nous cherchons volontiers pour notre apaisement la société de ces êtres dont les mains, les regards, les gracieuses folies nous font apparaître comme autant de folies notre sérieux, notre lourdeur, notre profondeur. Alors, derrière l'ironie, et c'est pas très élégant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la femme n'est vraiment la femme que quand elle ne se dévoile pas en totalité. Quand elle a quitté ses voiles, c'est-à-dire quand elle se révèle totalement, quand elle s'étale, comme la prostituée se donne sans voile, elle a perdu tout son mystère, elle a perdu sa nature même. Nous retrouvons ici le thème du voile. La femme n'est belle, n'est elle-même que si elle est voilée. Je ne parle pas du voile islamique, hein. Je parle du vêtement. Et c'est vrai de la vérité. La vérité doit garder son voile, sinon elle n'est plus la vérité. Alors, pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons que nous verrons peu à peu. Disons que les philosophes dogmatiques, ils ont brutalisé la vérité. Ils ont voulu la posséder, ils ont cru qu'ils la détenaient. Comme au fond, un homme croit qu'il possède une femme quand il la mise à nu et qu'il la possède. Ben, il ne possède rien. La femme est d'autant plus la femme qu'elle se dévoile quand elle veut, et si elle veut. Et elle a son mystère dans le fait même d'être pudique et voilée. Il en est de même de la vérité. La vérité ne peut jamais être vue face à face. Elle ne peut jamais être vue en totalité. Il n'y a pas de vue de surplomb. Et je vous renvoie ici à l'avant-propos du Gai Savoir. Très belle idée sur le voile. Il y a cette petite histoire. Une petite fille dit à sa maman, il paraît que le bon Dieu voit tout. Et la petite fille, elle, la maman dit, oui, le bon Dieu voit tout. Et la petite fille, je trouve ça unanständig, inconvenant. Vous voyez, ça va loin dans la critique d'une certaine conception de Dieu. Un Dieu qui voit tout, tout est transparent, il ne voit rien. Unanständig, ça ne se fait pas. Il faut garder aux choses leur mystère, aux personnes leur mystère, à la femme son mystère, à l'homme son mystère. Donc, si la réalité est femme, c'est en un sens symbolique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre la posséder. Et le grand reproche fait à la philosophie dogmatique, c'est qu'elle a cru qu'elle pouvait atteindre le fond des choses, c'est-à-dire qu'elle pouvait posséder la vérité, qu'on pouvait la conquérir. Or, on ne peut obtenir l'amour d'une femme que par la séduction, que par la ruse, que par les détours, que par la courtoisie, qu'en faisant sa cour. Bref, par des détours labyrinthiques. De même, la vérité ne peut s'atteindre que par des détours labyrinthiques. La vérité d'un tableau de Rembrandt, Cézanne, vous n'avez jamais saisi une fois pour toutes. Il faut y revenir, il faut le méditer, il faut la regarder une autre fois, il faut la comparer à d'autres tableaux. Bref, il faut toute une stratégie et à la fin des fins, vous ne pourrez jamais dire « Ah oui, Cézanne, c'est ça !» Parce que plus vous allez regarder du Cézanne, plus il va vous échapper. Mais regardez, c'est l'amour. Plus on s'aime, plus on est devant le mystère de l'autre. Si l'autre n'a plus de mystère, vous l'avez banalisé, démocratisé, vulgarisé, communisé. Il n'existe plus. Alors ça, c'est cette lourdeur, la lourdeur de la domination que Nietzsche appelle la philosophie dogmatique, la dialectique socratique. Je vous prends par la main, je vous menais du sensible à la belle idée, de la belle idée au bien en soi, du bien en soi, etc. Ou la dialectique hegelienne. Vous n'en faites pas, vous allez traverser des gouffres, mais en vous me prenant par la main, vous allez arriver au savoir absolu. Non. Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut jamais posséder la vérité. On ne peut jamais l'avoir nue. On doit se contenter des apparences. Parce que la pensée se livre, la vérité se livre en se cachant. Comme une femme se livre en se cachant. Elle ne se dévoile pas d'un coup, alors c'est une prostituée. Et cette tâche de séduction de la vérité ou de la femme n'est jamais finie. Donc jamais achevée. La vérité est toujours devant nous. Alors, faisons bien attention. Il ne s'agit pas de renoncer à la vérité. Comme le disent des interprètes trop rapides. Nietzsche ne dit pas renoncer à la femme, renoncer à la vérité. Non. Il s'agit de renoncer à la prétention de détenir la vérité, philosophie dogmatique. Il s'agit de renoncer aux mauvaises façons de séduire, au bon sens du mot, la vérité. J'ouvre une petite parenthèse. Non seulement la vérité nous échappe toujours, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la chercher, mais j'ajoute un point que nous retrouverons plus loin. Si nous ne pouvons pas regarder la vérité en face, c'est parce que peut-être elle est affreuse. J'ai souligné le mot « affreux » tout à l'heure en lisant le texte. Qu'elle n'est pas belle à voir, n'est-ce pas? Alors ça aussi, c'est dans l'avant-propos du Gai Savoir. Des jeunes Égyptiens vont enlever les voiles des statues et ils découvrent qu'il n'y a rien dedans, dessous, ou que des choses horribles. Parce que une femme dénudée peut être très belle, mais pouvait découvrir aussi des choses pas très belles. Donc, mieux vaut qu'elle se voile un peu. Ça aussi, c'est l'avant-propos du Gai Savoir. C'est-à-dire, on peut découvrir des choses affreuses. Et la vérité, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est l'héritage schopenhauerien, la vérité n'est pas toujours belle et bonne. On peut découvrir en la cherchant des choses horribles et déplaisantes. Donc, n'avançons pas trop vite. Mais je ferme cette parenthèse. Alors, qu'est-ce que c'est que le style dogmatique? Ben, je crois l'avoir dit un petit peu. Le style dogmatique, c'est celui qui prétend atteindre la vérité et celui qui prétend la diffuser, la vulgariser. Puisqu'on l'a atteint, on va pouvoir la vulgariser à tous. Socrate devant le petit Ménon. Paragraphe 43. Seront-ils de nouveaux amis de la vérité, entre guillemets, ces philosophes à venir? La vérité, en guillemets, c'est la vérité détenue, c'est la vérité de la philosophie dogmatique. Seront-ils de nous? Très probablement, car tous les philosophes connus ont aimé leur vérité. Pourtant, ce ne seront certainement pas des dogmatiques. Leur orgueil, autant que leur goût, s'insurgera à l'idée que leur vérité doit être une vérité pour tous. Et on retrouve toujours le même thème. Ce qui, jusqu'ici, fut secrètement le vœu et l'arrière-pensée de toutes les visées dogmatiques. Mon jugement est mon jugement, et je n'admets pas volontiers qu'un autre y ait droit, dira peut-être un de ses futurs philosophes. Il faut se défaire de ce mauvais goût, vouloir s'accorder avec le grand nombre. Voilà, c'est vrai de la vérité aux yeux de Nietzsche, c'est vrai de la femme. L'amour de on aimera telle femme que d'autres n'aimeront pas. Et si vous aimez telle femme, n'attendez pas que tout le monde l'aime de la même façon. Et qu'elle soit en effet aimable pour tous. Bien ne signifie plus bien dans la bouche du voisin. Donc, la vérité, si elle est communiquée, c'est une fille publique. Ce n'est plus la vérité. C'est une vérité qui passe entre toutes les mains. Alors, j'incite à nouveau, il ne s'agit pas de renoncer à chercher la vérité, il faut la désirer, il faut mettre des stratagèmes pour la découvrir, et on sait qu'on ne la découvrira jamais, au fond, comme on tente de séduire une femme sans être sûr d'y parvenir jamais. Et nous savons que le malheureux Nietzsche lui-même n'est jamais tellement parvenu, donc il parle aussi à nouveau d'expérience. Donc, la vérité, c'est une réalité qu'on ne peut ni posséder, ni manipuler, ni tellement livré au commun, livré à tous. Voilà pour ce premier petit paragraphe, me semble-t-il, sur cette idée de vérité et de féminité. Alors, parlons sérieusement, c'est le deuxième point. Parlons sérieusement. Nietzsche tient dans ce passage que la philosophie dogmatique, le dogmatisme en philosophie est mort, mais pas totalement. Il subsiste encore. Simplement, il nous apparaît à nous, philosophes de l'avenir, à nous, philosophes nietzschéens, comme un noble enfantillage. n'est-ce pas, c'est le mot qu'il utilise, comme une gaucherie de débutant, Anfängerei, de la puérilité. Et cependant, il y avait de la noblesse dans cette tentative. Voilà, toujours les deux points de vue. Il y avait chez Platon l'enfantillage, de croire qu'on peut par la dialectique atteindre la vérité, mais il y avait de la grandeur dans ce geste, c'est-à-dire qu'on cherchait quand même à trouver la vérité, on était mobilisé, et ça c'est quelque chose de capital, parce que ça demandait de l'effort, ça demandait de l'acharnement, ça demandait de la méthode, ça demandait en effet une mobilisation de soi. C'est pourquoi d'ailleurs cet enfantillage, alors ça nous rapproche en effet de la philosophie rationalisée Lumière, liée d'enfantillage, mais la différence c'est que cet enfantillage est une promesse, Versprechen, il porte en lui des choses nécessaires pour affronter l'avenir. Au fond, la bêtise du passé est lourde d'une charge positive. Donc, à nouveau, il ne faut pas écarter ça en disant, bon, nous avions des langes quand nous étions enfants, n'est-ce pas, je les laisse de côté, maintenant je m'habille comme un adulte. Il ne s'agit pas d'écarter cela, parce que cet enfantillage comportait du positif. Alors, je dirais qu'on se trouve là devant deux thèses, et je vais esquisser la première, et puis tout à l'heure, nous verrons la seconde. On pourrait dire que cet enfantillage, il a donné, il a produit des constructions sublimes. Autrement dit encore, ce qu'il appelle la superstition, langage à nouveau rationaliste, ce qu'il appelle la superstition n'a pas été simplement un ensemble de sottises inconsistantes, elle a créé des choses remarquables. Et il prend l'exemple de ces architectures d'Égypte et d'Asie. On croyait à des dieux auxquels nous ne croyons plus aujourd'hui, le temple d'Angkor, tout ce que vous voudrez, les pyramides, mais ça n'était pas rien. Et donc, même si nous ne croyons plus aux dieux du Cambodge, ou si nous ne croyons plus aux pharaons, il faut bien reconnaître la grandeur de l'entreprise. Alors, nous allons le voir tout à l'heure pour le platonisme et le christianisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche va prendre la comparaison avec l'âme. Alors là encore, il faut être très attention. C'est maladresse, enfantillage de débutant. Au fond, cette superstition populaire, venue d'un temps immémorial, est du même ordre que la superstition de l'âme, qui, devenue superstition du sujet et du moi, hein, le fameux individualisme moderne, ne cesse aujourd'hui encore d'engendrer ses méfaits. Alors, il faut faire ici, je crois, très attention, parce que l'on va dire, ah ben vous voyez, Nietzsche ne croit plus à l'âme. Ça relève de la superstition, du passé, et par conséquent, il faut nous en défaire, comme il faut nous défaire, d'ailleurs, de l'idée de sujet, de l'idée de moi. C'est l'interprétation que j'appellerais nihiliste de la pensée nietzschéenne. Mais si vous regardez le paragraphe 12, et nous allons le lire et nous arrêter là. Paragraphe 12. Entre toutes les théories, l'atomisme matérialiste, donc c'est Épicure qui disait un peu par là, est une de celles qui ont été les mieux réfutées, et peut-être n'existe-t-il plus en Europe un seul savant assez peu instruit pour lui accorder sérieusement quelque importance en dehors de sa commodité pratique, en tant que procédé pour abroger les formules. Le mérite de cette critique de l'atomisme en revient avant tout au Polonais Boscovitch, qui a été jusqu'ici, avec le Polonais Copernic, le plus grand et le plus victorieux adversaire de l'apparence. Or, ce Polonais Boscovitch, c'est un jésuite, très important, mais que personne ne connaît. Bon, donc peu importe, je signale ça en passant. En effet, alors que Copernic nous a persuadé de croire à l'encontre du témoignage de nos sens que la Terre n'est pas immobile, Boscovitch nous a appris à abjurer notre croyance dans l'ultime réalité terrestre demeurée immobile, notre croyance au corps, à la matière, à ce reste de Terre, cette particule infime, l'atome. Ce fut ici-bas le plus grand triomphe jamais remporté sur les sens. Mais il faut aller plus loin. et déclarer la guerre, une guerre impitoyable, au besoin d'atomisme qui survit pernicieusement, là même où nul ne le soupçonne, comme on voit se survivre le besoin de la métaphysique plus fameuse encore. Avant tout, il importe de faire rendre gorge à cet autre atomisme encore plus désastreux que le christianisme a enseigné le mieux et le plus longtemps, l'atomisme de l'âme. Qu'il me soit permis de désigner par ces mots la croyance qui tient l'âme pour quelque chose d'indestructible, d'éternel, d'indivisible, pour une monade ou un atomone. Bon, voilà la conception qui se fait de l'âme, hein, comme une sorte de d'entité unique et éternelle, enfin, qui ne bouge pas. Cette croyance-là, soulignez cette, doit être bannie de la science, disons de la connaissance. Entre nous soit dit, il n'est aucunement nécessaire de se débarrasser en même temps de l'âme elle-même et de renoncer ainsi à une des hypothèses les plus anciennes et les plus vénérables. Donc, on peut liquider une certaine conception de l'âme conçue comme une sorte d'atome, sans pour autant liquider la référence à l'âme. Et Nietzsche veut garder la référence à l'âme, mais en la comprenant autrement. Ce serait répété, si on envoyait le bébé avec l'eau du bain, la maladresse des naturalistes qui, sitôt qu'il touche à l'âme, la laisse échapper. La voie est ouverte qui nous permettra de donner des expressions neuves et plus raffinées de l'hypothèse de l'âme. Et nous allons le voir quand il va parler de la volonté plus tard, paragraphe 21. Des notions telles que âme mortelle, âme multiple, âme édifice commun des instincts et des passions réclament désormais leur droit de citer dans la science, la connaissance. Il est vrai qu'en mettant fin à l'ancienne superstition qui a proliféré autour de la représentation de l'âme avec une luxuriance quasi tropicale, le nouveau psychologue, Nietzsche lui-même, débouche en quelque sorte sur un désert et une méfiance également nouveau. Il se peut que pour les psychologues du passé, la tâche était des plus communes et des plus réjouissantes. Lui, cependant, ce psychologue, n'ignore pas qu'en dernière analyse, il est condamné par la même à inventer et qui sait peut-être à découvrir. Alors, on trouve là aussi un thème très profond chez Nietzsche, l'idée qu'il s'agit de faire une psychologie de l'âme, une nouvelle psychologie, qu'il identifie souvent à sa morale. C'est découvrir ce qu'il en est des profondeurs de la volonté. Et nous allons voir qu'en effet, Nietzsche va montrer, en anticipant, je crois, sur les analyses de Freud, la complexité de l'âme humaine. C'est-à-dire, l'âme n'est pas seulement un atome qu'on saisit, une entité repérable. L'âme est faite de multiples demeures souterraines qui, en partie, nous échappent. C'est l'inconscient freudien avant la lettre. C'est que, très profondément, nous ne sommes pas totalement maîtres de nous-mêmes. Et l'âme est cette, comme il le dit ici, n'est-ce pas, cette multiplicité de cités, multiplicité de demeures. Donc voilà qui est très intéressant, c'est que il ne s'agit pas de liquider cette notion d'âme, mais de la comprendre autrement. Voilà, je vois que l'heure est passée, on va s'arrêter un petit moment avant de reprendre ce commentaire.
C'est que inépuisable.
Oui, oh, c'est sûr qu'il est. Enfin, c'est quand même en même temps, flatteur de les comparer à la vérité.
Oui, mais il les compare.
C'est quand même flatteur en même
elles
temps.
Elles sont menteuses essentiellement.
Oui, mais comme la vérité, on ne peut l'atteindre qu'à travers.
Pas femme.
Oui, parce qu'il faut qu'elle soit. Elle ne peut pas se livrer comme ça. C'est toujours l'idée de l'illusion, si vous voulez, qui est nécessaire.
Oui.
On ne peut jamais dire la vérité toute nue, il faut toujours, par certains côtés, la trahir, quoi. Et le voile,
peut-être
le masque,
c'est qu'en étant elle-même, pleinement femme, elle est mystérieuse, mais sans vouloir cacher quelque chose.
Si elle ne cache rien, elle a perdu son mystère. Et je crois qu'il a quand même raison. C'est vrai pour tout homme.
Elle ne cherche pas à cacher, mais qu'elle est insaisissable parce qu'elle est. Plus mystérieuse au sens mystique du terme.
Oui, ça je pense.
C'est pas la même chose, c'est pas la même marche.
Oui, pour lui, c'est lié parce qu'on peut pas, il n'y a pas de transparence totale, quoi. Il peut jamais y avoir une transparence totale, c'est le vide. Donc il faut toujours que la vérité avance toujours masquée. Et...
Ce que je n'arrive pas à saisir, c'est la nécessité du masque, alors qu'il y a simplement l'inépuisable, la profondeur.
Ben oui, mais c'est lié.
L'invitation à approfondir, l'invitation à démasquer.
Mais vous irez de masque en masque.
C'est vrai qu'en fait. Le postulat de départ, c'est que la vérité est masquée.
La vérité ne peut jamais se dire. Elle ne peut jamais se dire en blanc. Enfin, elle ne peut jamais se dire de manière ouverte. Elle reste toujours, en effet, mystérieuse. Oui, ça, je crois que c'est certaine idée. Et que si on en avait fini avec la vérité, on se trouverait devant le vide. Mais c'est vrai quand vous connaissez. Si vous prétendez connaître quelqu'un à fond, c'est plus. Elle reste toujours.
C'est possible qu'on n'y ait jamais connu à fond. Mais il n'a pas besoin de se cacher pour ne pas être.
Non, mais c'est son langage à lui. Hein, qu'il lui vient un peu de Schopenhauer, nous aurons l'occasion de le voir. Oui, c'est-à-dire qu'on est pour lui, on est toujours dans le monde de l'illusion. Je crois connaître quelqu'un. Vous ne connaissez pas. Vous pouvez dire il est orgueilleux, il est je ne sais pas. Il est sûrement. Comment ?
Vous connaissez un certain type de femme.
Oh, mais c'est vrai pour les hommes aussi. Hein. Non, mais je crois qu'il y a une vérité très profonde, c'est qu'on ne peut jamais atteindre le... dire j'ai atteint le fond.
Je suis d'accord.
Voilà, on reprend notre parcours. Alors, évidemment, comme vous le constatez, cette critique de la philosophie dogmatique est évidemment très rapide dans notre passage. Mais pour la situer un peu, on pourrait dire qu'après tout, sur ce point, Nietzsche est tout à fait dans la filiation kantienne. Parce qu'après tout, quand on lit Kant, on s'aperçoit qu'il a plusieurs ennemis, mais enfin, il y en a un en particulier, qui est le dogmatisme. C'est-à-dire les philosophies qui croient que la vérité est là, qu'on peut l'atteindre, qu'il n'y a pas de problème. Et toutes les critiques de la raison pure comme de la raison pratique sont précisément des mises en garde contre le dogmatisme. Et au fond, Nietzsche est peut-être plus kantien qu'on ne pense, y compris dans tout ce que nous venons de dire sur la vérité, après tout, toujours inaccessible. Parce que pour Kant, bien entendu, qu'on peut connaître le sensible... La science est tout à fait fondée à dire ce qu'elle dit, à condition évidemment qu'elle respecte un certain nombre de règles, mais après tout, on ne saisit là que le phénomène. La vie morale elle-même, la décision morale, échappe en grande partie à ce déterminisme. Et que dire encore concernant l'espérance, la religion, etc. Là-dessus, le scientifique n'a strictement rien à dire. C'est pas le monde des choses en soi nous échappe absolument à la phénoménalité. Donc on pourrait dire qu'avec un autre langage... La critique nietzschéenne du dogmatisme n'est pas très éloignée de celle de Kant. Si l'on voulait donc donner à Nietzsche un ancrage pour éviter de laisser croire qu'il est absolument original, le premier à avoir dit ces choses. De même, quand il fait la critique du langage et de la grammaire, hein, dans le texte que nous avons là dans la préface, il ne faut pas se laisser prendre aux mots, il ne faut pas se laisser prendre à la grammaire. C'est au fond aussi une position qui n'est pas éloignée de celle de Kant, c'est-à-dire que on croit parce qu'on parle de l'âme ou de Dieu qu'on sait de quoi il s'agit, mais attention, les mots cachent plus qu'ils ne révèlent, c'est un peu toujours la même chose. Donc on pourrait dire, de ce point de vue-là, il se situe dans la grande tradition philosophique, méfions-nous des mots. Et si l'on voulait un tout petit peu rattraper Platon et Socrate, on pourrait dire qu'après tout, le premier geste de Socrate, c'est de dire à ses disciples, « Ah, vous croyez savoir ce que c'est que la justice ?» Eh bien, écoutez, parlons-en. Et vous allez découvrir que vous ne savez pas ce que c'est. Bon, donc, mais ça, c'est un peu, j'allais dire, la manie des philosophes, de dire jusqu'à présent, on a toujours erré, n'est-ce pas, je suis le premier à ouvrir des voies. Bon, on peut s'amuser à ça. N'empêche que, évidemment, il y a une originalité chez Nietzsche, mais son originalité rejoint un geste philosophique qui est fondamental. Tout philosophe commence par vous dire, attention, vous croyez savoir, mais vous ne savez pas, en réalité. Bon, ben, qu'est-ce que fait Socrate? Il fait ça. Et Nietzsche le fait, mais alors avec la fougue qui est la sienne et qui peut nous paraître totalement révolutionnaire ou aberrante. Bon, donc, à nouveau, la grande idée, c'est que la vérité se cache, et lorsqu'on croit la détenir par le langage, lorsqu'on se laisse prendre aux mots, lorsqu'on se laisse prendre à la grammaire, on risque tout à fait de se tromper. Bon. On pourrait, mais je vais le laisser de côté, lire un texte du Humain trop humain. Je vous y renvoie si vous avez ce volume, au paragraphe 11 du premier volume de Humain trop humain qui s'appelle « Le langage, science prétendue ». Bon, je vais laisser ce texte de côté, nous y reviendrons peut-être une fois ou l'autre. Alors ça, c'est le premier argument. Il y a une deuxième thèse, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, et qui rejoint une philosophie de l'histoire, ça serait beaucoup dire, disons, un certain sens de l'histoire de l'humanité, à savoir que toute grande chose, pour s'inscrire dans le cœur de l'humanité, prend d'abord une figure grotesque, un masque grimaçant. Elle apparaît tout... Alors, bon, c'est une position étrange que nous enregistrons comme telle, mais qui est intéressante, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire ces gens étaient de grands naïfs, étaient de gros bébés, n'est-ce pas, qui croyaient à des stupidités. Pour atteindre une certaine vérité de l'homme et de leur existence sur la vie, la mort, ils avaient besoin de se donner d'immenses illusions, de construire d'immenses choses. Alors, c'est vrai en architecture, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une chose assez curieuse, mais c'est vrai en philosophie. Alors, il prend les deux exemples qu'on pourrait évidemment discuter, celui des Vedanta en Asie. Je ne connais pas assez la chose pour savoir exactement de quoi il s'agit, mais enfin c'est l'exemple qu'il donne, et le platonisme, sur lequel on va peut-être s'arrêter un petit peu plus. Bon, ce sont les deux seules références que Nietzsche retient. Ça veut dire que, au fond, dans les origines de l'humanité, on passe toujours par une période rude, que l'humanité n'accède à elle-même qu'à travers un dressage rude. C'est une grande idée que nous trouvons dans la généalogie de la morale, dans la deuxième partie ou la deuxième dissertation, l'idée qui a été reprise d'ailleurs par un certain nombre d'anthropologues comme Pierre Castres, c'est l'idée que l'homme ne surgit à lui-même qu'à travers une discipline de fer, à travers des tortures, à travers des grossièretés qui l'obligent à se dresser, donc à sortir de l'animalité. Bon, on retrouverait un peu déjà une certaine idée freudienne, c'est que l'enfant doit rencontrer la loi et que la loi est nécessairement blessante. Il faut casser le narcissisme, si on ne relativement comme toujours, si on ne le casse pas, l'enfant reste à l'état larvaire. Donc il faut qu'il rencontre une discipline rude. Ça, c'est tout à fait nietzschéen aussi. Vous imaginez que pour lui, c'est tout le monde est heureux, tout le monde est gentil. Non, il faut en passer par ça. Alors il faut en passer au niveau de l'individu, il faut qu'il ait une discipline, mais il faut y passer aussi au niveau de l'humanité globale. Alors cette discipline, elle est rude, et évidemment, elle est horrible. Nous n'en voulons pas, ça relève de l'enfance. Mais en même temps, cette discipline est la source de créativité. Voilà le paradoxe, c'est qu'elle n'est pas simplement à mettre sous la catégorie du négatif et du sadisme, elle est la condition de possibilité d'un individu créateur. Alors, nous retrouvons ici nos deux thèmes, c'est la deuxième partie finalement que j'ai lue tout à l'heure, nos deux thèmes du platonisme et du christianisme. Ils ont été les deux foyers de discipline de l'humanité occidentale. Alors, d'un côté, nous ne pouvons plus rentrer dans ces philosophies ou ces théologies, mais d'un autre côté, nous sommes entièrement redevables de ce que nous sommes à ces deux monstres, si l'on peut parler ainsi. Alors, ça nous conduit à la deuxième partie de ce texte. À présent qu'on est qu'on en est venu à bout, et qu'on est sorti du christianisme et du platonisme, que l'Europe respire et sort de ce cauchemar et qu'il lui est permis de jouir au moins d'un sommeil plus sain. Vous voyez, donc, attention, on est sorti du platonisme et du christianisme. C'est pas pour un avenir radieux. Pas nécessairement. C'est le règne de l'ilote démocratique qui ne veut plus, qui veut jouir sans entrave. Sans entrave. Il ne veut plus de discipline. Ça, c'est fini. On jouit librement. Ben, on fait une société de repus, d'esclaves, comme on dit. D'esclaves. On est libéré, mais c'est pour rentrer dans la servitude. Et on aime la servitude. Grande idée aussi de certains philosophes dont Nietzsche s'en proche, la Boétie, l'ami de Montaigne, que Nietzsche admirait beaucoup, Pascal, j'allais dire Simone Weil, qui évidemment que Nietzsche n'a pas connu, mais qui a cette idée que la servitude est si perverse qu'on finit par l'aimer. On aime, ça c'est la définition même de l'esclave moderne, il aime sa médiocrité. Et il s'en fait un point d'honneur. Alors donc, on retombe dans le sommeil. Grande interrogation. Nous sommes sortis de la grande discipline, on va revenir sur ce point, du platonisme et du christianisme. Mais est-ce qu'il est sûr que nous allions vers un plus ? Est-ce que lorsque la discipline se détend, on ne tombe pas dans l'affaissement ? Bon, nous avons, donc, il est permis de jouir au moins d'un sommeil plus sain. Nous, dont la tâche même est de veiller, nous avons hérité toute l'énergie qu'a grandement discipliné le combat contre cette erreur. Certes, c'était mettre la vérité sans dessus de nous, sans dessus dessous, et nier le perspectivisme, auquel j'ai déjà fait allusion, condition fondamentale de toute vie, que de parler de l'esprit et du bien comme Platon l'a fait. En tant que médecin, on peut même se demander d'où vient qu'une telle maladie ait atteint le plus beau rejeton de l'Antiquité, Platon. Est-ce le méchant Socrate qui l'a corrompu ? Socrate aurait-il donc été le corrupteur de la jeunesse ? Aurait-il mérité sa ciguë ? Donc, Platon est à la fois le plus admirable et le plus dangereux. Je vais revenir là-dessus, parce qu'on passe, me semble-t-il, à un quatrième versant. Mais le combat contre Platon, ou pour parler en termes plus compréhensibles et accessibles au peuple, entre guillemets, le combat contre l'oppression millénaire de l'Église chrétienne, et la célèbre parenthèse, car le christianisme est un platonisme pour le peuple, a produit en Europe une magnifique tension de l'esprit, comme il n'y en eut encore jamais sur Terre. Avec un arc à ce point bandé, on peut désormais viser les cibles les plus lointaines. Il est vrai que l'Europe ressent cette tension comme un état de détresse, et l'on compte déjà deux tentatives de grande envergure pour détendre l'arc. D'abord le jésuitisme, ensuite la philosophie démocratique des Lumières, laquelle, grâce à la liberté de la presse et à la lecture des journaux, pourrait bien aboutir en fait, à ce que l'esprit ne se sente plus élément lui-même que comme une détresse. Mais nous, qui ne sommes ni jésuites, ni démocrates, ni même assez allemands, nous, bons Européens et libres, très libres d'esprit, nous avons encore toute la détresse de l'esprit et la pleine tension de l'arc, et peut-être aussi la flèche, la tâche, et qui sait le but. Bon, donc, désormais, Nunmehr, ce passé est surmonté, Überwinden. Attention aux mots, nous sommes tentés de l'interpréter à la mode hegelienne, surmonter, c'est dépasser en reprenant, mais en allant au-delà. Le surmonter nietzschéen n'est pas ce mouvement dialectique, c'est l'effondrement. On surmonte par effondrement de ce qui était dominant auparavant. On pourrait dire que platonisme comme christianisme, dans le cas du christianisme, nous y reviendrons plus tard, ces grandes entités se détruisent par désintégration interne. On ne peut plus adhérer à l'idée de bien en soi, cette idée de surplomb. C'est du dedans même que la croyance au bien en soi, ou la croyance au christianisme, nous reviendrons là-dessus, ne peut plus, qu'on ne peut plus y adhérer. Cependant, ces immenses illusions, ces illusions ont marqué l'homme, mobilisé des forces qui restent disponibles, et même que la discipline séculaire de l'idée de bien ou la croyance au royaume de Dieu ou en Dieu n'a fait qu'accroître. Donc il ne s'agit pas de revenir avant, de croire à une sorte de progrès automatique. Au fond, ces erreurs étaient nécessaires. Il est assez troublante. Le mensonge était un mensonge, l'illusion était une illusion, mais elle était porteuse de quelque chose de positif. Elle était le signe que quelque chose d'autre était présente dans cette erreur. Alors, le problème, c'est justement la question est de savoir si, une fois cette discipline effacée, l'humanité européenne ne va pas retomber dans le n'importe quoi et dans le nihilisme. Et on pourrait dire que nous touchons là la grande interrogation de Nietzsche, qui le met à nouveau à grande distance des philosophies de l'histoire optimistes, à la façon hegeliano-marxiste. Il ne pense pas que la disparition de l'erreur, ou de l'aliénation, si on veut parler comme Marx, engendrera presque d'elle-même, à travers des chaos de Sondra, une société meilleure et une humanité nouvelle. Il pense qu'il serait possible à quelques-uns de ne pas gaspiller l'immense énergie qui a été ainsi accumulée, mais il se demande aussi si ce ne sera pas le nihilisme qui va triompher. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trop tendu l'arc, est-ce que l'humanité européenne ne sera pas fatiguée de l'effort, ne va pas s'affaisser sur elle-même? Le platonisme nous oblige à sortir du sensible et à aller vers un au-delà par la tension même de la dialectique. Le christianisme nous disait, oui, ce monde est bien, mais enfin, il faut en attendre un autre. Et il faut travailler sur soi-même pour mériter ce monde autre. Magnifique tension. Peut-être tension trop forte, qui fait que l'arc, une fois qu'il est détendu, risque de tomber en quenouille, c'est-à-dire l'humanité risque de s'affaisser. Est-ce que le risque n'est pas grand que l'on fasse non plus du bien en soi l'idéal, mais du néant, du n'importe quoi, du non-sens, l'idéal même? Alors, je vais lire quand même un petit passage du Humain trop humain, cette fois le paragraphe 20, qui s'intitule « Reculer de quelques échelons ». Oui, ça va reculer pour prendre le dessus. Un degré assurément très élevé de culture, alors c'est un texte qui est encore marqué beaucoup par le rationalisme, et on sent bien. Un degré assurément très élevé de culture est atteint quand l'homme surmonte ses terreurs, ses idées superstitieuses et religieuses, et cesse par exemple de croire aux anges gardiens, aux péchés originels, quand il ne sait plus même parler du salut des âmes. Une fois parvenu à ce stade de libération, il lui reste à fournir son plus intense effort de réflexion pour triompher encore de la métaphysique. Après quoi, cependant, un mouvement rétrograde est nécessaire. Il lui faut de ses représentations comprendre la justification historique autant que psychologique. Il lui faut reconnaître que les plus grands progrès de l'humanité sont venus de là. Et que, faute de ce mouvement rétrograde, on se priverait du meilleur de ce que l'humanité a réalisé jusqu'à présent. Alors ça n'est pas la ligne de la philosophie des Lumières. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on peut récupérer ce meilleur? Pas absolument sûr. Parce que justement, il n'y a pas un mouvement d'histoire assuré, il n'y a pas ce que Nietzsche appelle un ordre moral du monde qui voudrait qu'après l'enfance, on passe à l'âge adulte, etc. D'ailleurs, assez méchamment, Schopenhauer dit, c'est très gentil, on dit, on passe, n'est-ce pas, de l'ombre à la lumière, de la nuit au jour, on passe de l'enfance à l'âge adulte, mais on s'arrête. Or, après l'adulte, il y a le vieillard, et après le vieillard, il y a la mort. Ah, ça, la philosophie des Lumières n'aime pas trop. Avenir radieux, le soleil, n'est-ce pas? Mais comme je vous ai dit pour Nietzsche, il y a l'aurore, le midi, le soir et la nuit. Ça, on n'aime pas dire. Alors voilà, est-ce que de ce grand midi, platonicien, chrétien, il va pouvoir sortir quelque chose d'autre que peut-être la mort? Voilà. Alors, je m'arrête simplement. Donc les deux grandes références, c'est platonisme et christianisme. Je voudrais m'arrêter d'un mot. Sur deux points. D'abord, l'idée de la maladie. La maladie. Le regard de Nietzsche sur la tradition philosophique platonicienne comme chrétienne, évidemment réduite à leur plus simple expression, l'angle de regard est celui de la santé et de la médecine et de la maladie. Et Nietzsche se pose volontiers en médecin, médecin de l'âme occidentale. Il s'agit de diagnostiquer des symptômes. Nous retrouvons l'idée de vérité. Le médecin, il n'a sous la main que des symptômes, c'est-à-dire des signes. La fièvre, diarrhée, manque d'appétit, des maux de tête. Il faut qu'il interprète les symptômes. Auslegung, interpréter les symptômes. Alors, tout le problème est là. Il n'atteint jamais la vérité du malade. Il va dire, vous avez la typhoïde, vous avez la rougeole, vous avez je ne sais pas quoi. Mais il peut se tromper. Il peut se tromper. Donc le diagnostic ne sera jamais, ne peut jamais être un diagnostic définitif. Le mauvais médecin, c'est celui qui dit, c'est ça et pas autre chose. Dogmatique. Le vrai médecin, c'est celui qui ne dit pas au patient, bien entendu. Je fais un diagnostic, mais on va voir au bout de 15 jours comment ça tourne. Et puis peut-être que je vais même sûrement rectifier mon diagnostic et mon ordonnance. Vous voyez, le système Nietzsche, il va danser sur le... Voilà, la perspective. Maladie. Alors, ce discours de maladie est intéressant plus d'un titre. Ça suppose une interprétation des symptômes. Mais ça suppose que, évidemment, on peut soigner la maladie tant qu'on veut. Un jour ou l'autre, le médecin va être vaincu par la mort. Très difficile à avaler, comme nous savons, pour tout médecin. Alors voilà aussi l'approche nietzschéenne, schopenhauerienne de l'histoire. Mais la mort, c'est pas simplement la planète qui tourne au coup, se refroidirait ou tomberait dans un chaudron. La mort, c'est la mort du non-sens. C'est le nihilisme. L'humanité qui se détruit elle-même parce qu'elle trouve plus de sens. Parce qu'elle a perdu son but. Hein, fin de ce paragraphe. Alors, ça, c'est une première remarque, la maladie. Alors, cette première remarque, elle se double d'une autre, je reste dans la première remarque, c'est que pourquoi, finalement, Platon peut-il être considéré comme un malade? Alors, il faut éviter ici les réductions psychologiques, ce qu'on a dit tout à l'heure, le fameux texte, faites attention de ne pas aller trop vite à la psychologie. Qu'est-ce qui a voulu le bien en soi chez Platon? C'est ce qu'on a trouvé dans les premiers paragraphes du Par de la bien et le mal. Qu'est-ce qui a voulu le bien en soi? C'est pas seulement que Platon s'est trompé ou n'a pas vu les choses correctement. C'est qu'en lui, il y avait un besoin du bien en soi, un besoin de vérité. Ou dans le cas du christianisme, un besoin de croyance. D'où venait ce besoin de croyance? Et tant que ce besoin de croyance ne sera pas guéri, on continuera à vouloir ce bien en soi ou cette croyance. Mais peut-on jamais en guérir? Voilà la question. Alors, deuxième petite remarque, vous voyez, ça nous ouvre l'idée de sonder la vérité, sonder la volonté de vérité. Pourquoi a-t-on voulu le bien en soi et non pas autre chose? On pourrait dire que là, alors, Nietzsche est assez original parce qu'il ouvre à cette philosophie de la volonté qu'il a trouvée chez Schopenhauer, qui va se reproduire chez Freud. C'est pas le tout de connaître. Mais pourquoi veut-on connaître? Et pourquoi veut-on connaître le vrai absolument? D'où cela vient-il? Est-ce que ça ne vient pas, j'anticipe sur les réponses nietzschéennes, d'une certaine faiblesse à exister? On a besoin de se raccrocher à quelque chose de sûr. Donc à un absolu, à une vérité en soi, un bien qui n'est que bien, qui nous rassure et qui nous empêchera de danser, c'est-à-dire de jouer des hypothèses et des diagnostics. Bon, alors, deuxième petite remarque sur le platonisme, sur le christianisme platoniste pour le peuple. Alors c'est une formule très célèbre, très équivoque, très difficile à interpréter, certainement pas tellement fréquente dans le texte nietzschéen, je crois qu'il y a une seule autre récurrence ou deux. Mais c'est dire au fond que le christianisme, que le platonisme serait un christianisme pour l'élite. Et c'est d'ailleurs un peu ce que Nietzsche pense. Le platonisme est un christianisme pour l'élite. Mais retenons l'inverse, c'est-à-dire que le christianisme est un platonisme pour le peuple. Ça veut dire quoi? Ben, je ne sais pas trop, mais ça veut dire que le christianisme aux yeux de Nietzsche, alors quel christianisme, bon, on reviendra là-dessus, en tout cas pour lui, le christianisme des églises, puis c'est par les églises que l'homme européen a été éduqué, ce christianisme n'est pas en rupture avec le platonisme. Le christianisme des églises continue le platonisme en le popularisant, en le plébéianisant, en offrant le platonisme à tous, et même en particulier aux plus faibles et aux esclaves. Car le christianisme, Poligny en tout cas, ou celui des églises, énonce que par privilège, Dieu aime les petits et les pauvres, non pas les riches, comme saint Paul, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Corinthiens. Regardez la tête que vous faites, vous n'êtes pas quand même bien, bien glorieux, il a des éclopés, des clochards, des pauvres types dans la salle. Ben c'est ça que Dieu a élu. Platonisme pour le peuple. C'est vous, les faibles, les pauvres, les éclopés, les clochards, qui êtes aimés du bien en soi, n'est-ce pas? Ce qui est, j'anticipe un peu, la grande force du christianisme paulinien, c'est la révolte des esclaves. Puisque les esclaves vont dire, ben, c'est nous qui sommes les aimés de Dieu, c'est nous les élus, c'est nous les prédestinés, c'est nous les meilleurs, c'est nous les... etc. Et vous, les nobles, etc., les riches, les... vous êtes mal partis. Donc, Nietzsche ne pense pas que le platonisme ait, en quelque sorte, falsifié le christianisme. Ça, c'est, vous savez, une grande thèse chez un certain nombre de théologiens contemporains. Hélas, les pères de l'Église se sont laissés prendre par le platonisme ou la pensée grecque, et il faudrait retrouver l'Évangile pur. L'Évangile sauvera l'Église, l'Évangile pur. Alors ça, c'est pas la, on peut tenir cette position, mais c'est pas la position de Nietzsche, et je crois qu'il n'a pas totalement tort. Il n'y a pas de répudiation, il n'y a pas de rupture, et il n'y a pas l'idée non plus que le christianisme s'est laissé piéger par le platonisme. Alors, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que pour Nietzsche, le christianisme n'est pas simplement une aberration stupide et d'esclaves, c'est quand même le platonisme. Et comme nous savons, aux yeux de Nietzsche, même s'il critique Platon ou Socrate, le platonisme, c'est quand même un monument. Hein, c'est pas simplement un tissu d'idiotie. C'est un monument. Et ce monument, qui nous est parvenu à travers le christianisme, en le popularisant, c'est quand même quelque chose dont nous sommes redevables. Très bien. Il a permis de tendre. Mais le problème, alors voilà, c'est que cette tension, elle est menacée. Elle est menacée par quoi ? Eh bien, alors Nietzsche accuse la tentative de détendre l'arc de deux côtés, du côté de ce qu'il appelle le jésuitisme et de l'autre côté l'Aufklärung, les lumières démocratiques. Alors un petit mot sur les deux. Ce qu'il appelle jésuitisme, c'est un courant indéterminé qu'il lie aux efforts de l'humanisme scientifique de la Renaissance, qui vise finalement à donner un but terrestre à l'effort humain. Le jésuitisme, au fond, c'est la retombée de l'effort séculaire d'une ascèse qui vise l'au-delà du côté terrestre. Je crois qu'il cite une fois ou l'autre le jésuite espagnol Balthazar Gracián, qui est contemporain de Pascal, mais qui est son antinomie. On pourrait dire c'est ça, c'est-à-dire c'est une sorte de christianisme accommodé. Vous en faites pas, on peut vivre très bien dans le monde tel qu'il est, on peut s'accommoder, trouver des compromis, c'est pas si grave que ça. Alors on pourrait dire derrière ce mot de jésuitisme, sans doute vise-t-il aussi, en bon protestant qu'il est, la position jésuite en matière de morale, le molinisme, c'est-à-dire l'idée que on peut pas vivre au niveau de l'absolu, qu'il faut vivre dans les compromis. Bon, donc, évidemment, le duel est condamnable en soi. Le prêt à intérêt est condamnable en soi. Mais concrètement, vous êtes commerçant, on a atteint votre honneur, on ne peut pas laisser passer. Vous avez besoin de finances, de capitaux pour ouvrir un commerce. C'est votre famille qui en dépend, c'est votre avenir, donc d'accord, vous êtes d'accord pour dire que le prêt à intérêt c'est très mal, mais bon, je fabule un peu, mais je crois qu'il y a un petit peu de ça. Et l'héritage un peu protestant, c'est-à-dire anti, un peu raide. Donc le jésuitisme, c'est d'abord ça, c'est-à-dire ça baisse la tension, baisse de tension. Alors je voudrais citer un texte peut-être pour le 206. Le 206, voilà, tout à fait à la fin. À la fin de ce paragraphe 206, ce qu'un savant peut faire de pire et de plus redoutable lui vient de l'instinct de médiocrité qui le caractérise. De ce jésuitisme de la médiocrité qui travaille instinctivement à la ruine de l'homme d'exception et s'efforce de briser, mieux encore de détendre tout arc tendu. Détendre, avec des ménagements bien sûr, d'une main légère qui ne veut pas faire souffrir. Détendre avec une compassion qui inspire la confiance, voilà l'art propre au jésuitisme, lui qui a toujours su se faire passer pour une religion de la pitié. Alors, c'est moi qui développe ce que je vous ai dit, mais je crois qu'on n'est pas tout à fait en dehors de l'épure nietzschéenne. Le confesseur jésuite probabiliste vous dira, mais vous savez bien en effet que le préintérêt est condamné de tout temps par l'Église, par la Bible. Si vous êtes un héros, évidemment, vous ne ferez pas le prêt d'intérêt. Mais vous n'êtes pas un héros, vous êtes un commerçant qui a des enfants, etc. Il faut comprendre. Donc, vous voyez, c'est pas d'héroïsme, quoi, pas de, n'est-ce pas? Vous faites avec. Ça touche un point qui n'est pas totalement faux. Hein. Alors, le deuxième. Bon, vous voyez, l'idée, c'est que, au fond, en morale, on peut s'accommoder un peu. C'est la version nichée, on s'accommode un peu, on fait pas trop ce qu'il faut, rien de plus. ne va pas se casser la tête avec des idéaux impossibles. Et ça nous conduit à ce qu'il appelle l'Aufklärung démocratique. L'Aufklärung démocratique. L'Aufklärung démocratique, alors ça nous ouvrirait à toute la critique nietzschéenne de la démocratie. La démocratie, c'est aux yeux de Nietzsche l'égalité sans peine ou la liberté sans peine. De même qu'on a le chinois sans peine, pour quelques zéros. Évidemment, c'est une tartufferie totale parce que personne n'apprend une langue sans peine. Mais enfin bon, c'est la démocratie. On fait quoi pour apprendre l'arabe sans peine? C'est pas vrai, mais ça marche, la preuve. Alors, la démocratie, pour Nietzsche, c'est la liberté sans peine. Il suffit de réclamer vos droits. Vous réclamez vos droits et vous avez droit à tout ce que vous voulez. Or, la liberté, pour Nietzsche, magnifique paragraphe que je lirai peut-être dans le Crépuscule des idoles, ça se conquiert. Voilà, la liberté pour laquelle on ne se bat pas, c'est pas la liberté. Trouvons l'idée de discipline. C'est la liberté à portée de tout le monde, à portée de main, vulgarisée, c'est plus la liberté. C'est l'esclavage sous le nom de liberté. Alors, l'Aufklärung démocratique, c'est de croire qu'il n'y a plus à risquer, qu'il n'y a plus à s'engager, qu'il n'y a plus à conquérir, bref, qu'il n'y a plus à vouloir. L'Aufklärung démocratique, c'est une maladie de la volonté. On n'a plus à vouloir. Vous avez votre carte vitale, vous allez chez le pharmacien, pof, on vous rembourse. N'est-ce pas? Vous n'avez plus à vouloir conquérir, ça tombe dans le bec. Autrement dit, tout ceci fait baisser la tension par laquelle l'homme se construit lui-même ou veut un but. Alors, le contexte de la réflexion nietzschéenne, vous le voyez tout de suite, c'est que l'homme européen, ce qu'il appelle l'homme européen souvent, l'européen que nous sommes, et Nietzsche est foncièrement européen, nous verrons dans beaucoup de textes, Nietzsche est au-delà des nationalismes, bien qu'il soit très très allemand par beaucoup de côtés, l'homme européen, tel que la démocratie en hérite, est marqué par l'empreinte de l'emprise dogmatique. Ça a été un moment de rigueur qui a été mené par les églises. Le carcan, finalement, ascétique, a été la condition de possibilité de l'avènement de l'homme démocratique. Est-ce qu'on peut se contenter de jouir de ce capital? Eh bien, je dirais, voilà la grande question. Si on jouit de ce capital selon un éthos démocratique de servitude, on va le liquider, le laisser se perdre. Et c'est le risque, en effet, du nihilisme, et on pourrait dire la critique nietzschéenne de la démocratie. C'est-à-dire que, voilà, l'égalité pour tous, la liberté pour tous, les droits de l'homme pour tous, etc. Il n'y a plus à conquérir, tout est là. C'est un acquis qu'on n'a plus à combattre, pour lequel on n'a plus à combattre, pour lequel on n'a plus à se battre. Mais il serait possible de canaliser cette énergie, de ne pas la laisser tomber, en lui donnant un autre but. Et notre texte finit là-dessus. Nous, qui ne sommes ni jésuites, c'est-à-dire ni relativistes, allez, prenez ce que vous pouvez, etc., ni démocrates, c'est-à-dire, l'égalité, la liberté à portée de tous, ni même assez allemands, nous, bons Européens, libres, très libres esprits, nous avons encore toute la détresse de l'esprit et la pleine tension de son arc et peut-être aussi la flèche, la tâche et qui sait le but. Alors, ce petit passage vaut la peine d'être souligné parce qu'on dit souvent ben, Nietzsche ne veut plus de but, la finalité, etc. Mais si, parce que s'il n'y a pas de but, alors l'humanité retombe sur elle-même comme un soufflet. Mais attention, le but, il n'est plus donné, ça n'est plus le royaume de Dieu à atteindre, ce n'est plus le progrès indéfini, philosophie des Lumières, Condorcet, etc., le progrès scientifique qui va un beau jour faire en sorte qu'on rasera gratis, Ce n'est plus la société sans classe et sans État. Autrement dit, ce n'est plus un but qui serait inscrit dans l'ordre moral du monde, qui serait inscrit dans un sens de l'histoire tout fait. Ce but, encore faut-il le vouloir. Est-ce que l'homme est encore capable de se dépasser en se voulant lui-même? Voilà le surhomme, le danseur. Il ne poursuit pas un but extérieur à lui-même. Ou s'il danse seulement pour gagner de l'argent ou pour épater ses maîtresses, ce n'est pas un bon danseur. Le danseur, il danse parce qu'il aime la danse et qu'il aime la belle danse. La danse n'a pas d'autre but qu'elle-même. Cézanne ne peint pas la Sainte Victoire pour faire une Sainte Victoire plus vraie que la Sainte Victoire, mais parce qu'il aime représenter la Sainte Victoire, point final, et qu'il sait qu'il ne l'atteindra jamais. Donc, le but, il est en lui-même. Est-ce que l'homme est capable de se vouloir lui-même? Alors, je crois qu'il faut faire très attention ici, parce que on risque d'ouvrir la voie au slogan très fréquent dans les sacristies. L'homme moderne, dont Nietzsche est un représentant, c'est le Prométhée. L'homme qui va conquérir, etc., qui va se croire maître du monde. Mais il n'y a rien de ça. Parce que chez Nietzsche, c'est l'homme de la souffrance. C'est l'homme qui se sait fini. C'est le danseur qui sait qu'il peut se casser la figure. Mais qui danse quand même. Voilà le oui nietzschéen. On danse bien qu'on sache qu'on puisse faire un entrechat qui vous fiche par terre et qui vous casse une jambe. Donc, c'est pas l'homme prométhéen, et le surhomme n'est pas l'homme prométhéen, c'est, troisième métamorphose du Zarathoustra, l'enfant. L'enfant qui danse sur le monde. Il ne cherche pas de pourquoi, parce qu'il a du plaisir à faire ce qu'il fait. Le danseur n'a pas un but extérieur à lui-même. Il danse pour le plaisir de danser. Le oui pour le oui. Alors, voyons tout de suite que, enfin, nous entrevoyons que l'esprit libre, c'est celui qui n'est pas pris par le dogmatisme, c'est celui qui ne cherche pas un but auquel se sacrifier. Parce qu'on pourrait dire que, au fond, les conceptions du monde qui donnaient un but permettaient à l'homme de se mobiliser. Le scientifique, il dit, mais je vais faire avancer la recherche, je vais faire progresser l'humanité. Il se dévoue à son travail et il donne un sens à sa vie. Mais il s'y tue. Le militant communiste qui travaille pour la société sans classe et sans État, il est prêt à mourir pour ça. Mais il meurt pourquoi? Il meurt pour une illusion, parce que la société sans classe, elle n'arrivera jamais, et le progrès de l'humanité indéfini n'arrivera jamais. Donc, c'était bien des buts, mais des buts illusoires. Le seul but qui ne soit pas illusoire, c'est justement la réalisation de soi, le se surmonter soi-même, se donner à soi-même un but qui est de dire oui à ce qui est, et de dire oui à soi-même. Voilà, l'esprit libre, c'est celui-là. Le danseur est l'esprit libre parce qu'il n'a qu'une préoccupation, si je puis dire, c'est de bien danser. C'est son but, et il n'en a pas d'autre, en sachant qu'il peut évidemment rater le but. Parce que ce n'est pas inscrit dans la nature des choses que le danseur ne sera jamais paralysé, ne tombera jamais, qu'il n'y aura pas un accident, que si et ça. Voilà, alors la prochaine fois, nous prendrons les paragraphes 1 et 2 que je vous recommande de lire à l'avance, et puis comme toujours, nous ferons un petit temps de discussion, si vous le souhaitez, sur tous ces passages un peu compliqués en effet, et allusifs, comme toujours chez Nietzsche. Oui, je vous en prie.
J'ai une autre question en italique. C'est Nietzsche qui...
Ah non, c'est certainement Nietzsche, si vous avez une bonne édition. Et donc, c'est comme je vous disais l'autre jour, il faut toujours faire très attention, à la fois aux guillemets, quand il dit le peuple, ou les souligner, ça veut dire qu'il insiste sur ce point. Et que donc, ce n'est pas un mot banal, c'est un mot auquel qu'il faut ruminer. Il n'est pas là par hasard, il est... Bon, en gros, hein, je crois. Donc, il n'y a rien de non construit, finalement, dans ces textes. Ils sont très, très travaillés, finalement. Voilà, merci beaucoup.